France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Charlotte Piret.
Ils sont 84 447, l'équivalent d'une ville comme Versailles, Dunkerque ou encore Béziers. Voilà de quoi on parle lorsqu'on évoque la population carcérale en France. Des villes globalement invisibles, assez peu évoquées, ou plutôt généralement d'un même prisme, celui de leur dangerosité pendant leur peine. En témoigne Mohamed Amara, qui vient par ailleurs d'être transféré dans une de ces nouvelles prisons haute sécurité pour narcotrafiquants. On y viendra peut-être. Mais aussi leur dangerosité à la sortie et ce mot qui fait peur, récidive. Une crainte fondée lorsqu'on sait que le sortant de détention, souvent désocialisé, inactif depuis des mois, en mauvaise santé, sans parler de l'école du crime que peut parfois aussi, pour ne pas dire souvent, représenter la prison. Quand on sait donc que plus de 60% des sortants commettent une nouvelle infraction dans les 5 ans qui suivent. Dès lors, la prison peut-elle être utile? Alors bien sûr, il va falloir parler conditions de détention, vétusté des locaux, accès au travail, à la formation, mise en place d'un projet de réinsertion. Évidemment, il va falloir redire la surpopulation carcérale, 135% en moyenne. Tous les acteurs du monde judiciaire alertent, cette surpopulation n'a jamais été aussi criante. Cet été, plus que jamais, les prisons françaises ont atteint un point de rupture. Mais plus largement, nous avons jusqu'à 20h pour nous interroger ensemble. Le choc carcéral et après, peuvent-ils avoir une utilité individuelle, sociale? Que dire des courtes peines, 3, 5, 6 mois, temps trop court pour le rendre fructueux? Mais que dire aussi des très longues détentions alors que Georges Ibrahim Abdallah s'apprête à sortir de prison demain après plus de 40 ans derrière les barreaux? Quel après est encore imaginable dans ce cas? Bref, quelle qu'elle soit, la peine de prison peut-elle avoir un sens? Cela nous concerne toutes et tous puisque c'est au nom du peuple français qu'elle est prononcée. Notamment, cela fait partie des critères pris en compte pour nous protéger, nous, société. Alors qu'en pensez-vous, vous, citoyens de l'extérieur, mais vous aussi, travailleurs derrière les murs, anciens détenus, acteurs judiciaires, venez nous dire comment vous percevez la réalité et le sens de la peine de prison. Un seul numéro, vous le connaissez, 01 45 24 7000, par téléphone, message ou note vocale WhatsApp, c'est le téléphone sonne et vous êtes les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour démarrer cette émission, nous accueillons Jonathan. Bonsoir Jonathan.
Bonsoir.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, merci. Déjà, merci à France Inter pour toutes ces émissions que j'écoute depuis ma naissance et qui ont bercé ma vie.
Merci à vous.
Oui, je voulais témoigner parce que l'été dernier, en juillet dernier, j'ai un membre de ma famille très proche qui a été incarcéré d'une manière très violente, très soudaine, alors qu'il était, pour une fois, il avait ses enfants en garde qu'il voyait jamais. Et donc même les gendarmes qui l'ont emmené à la prison ne pensaient jamais qu'il irait. Il y est resté 6 semaines. Donc nous, aucun moyen de pouvoir communiquer, d'avoir de ces nouvelles. En plus, il n'y a aucun lien qui est fait avec l'entourage au niveau carcéral. C'est-à-dire que moi, par exemple, une chose bête, j'ai envoyé un formulaire pour pouvoir communiquer avec lui. J'ai renvoyé tous les papiers. Et par exemple, juste parce que j'avais pas écrit mon mail, pourquoi j'envoyais tous ces papiers, j'ai jamais pu communiquer avec lui et j'ai eu aucun retour. Mmh. Mon cousin est resté 6 semaines en prison alors qu'au jugement, il a pris que du sursis. Donc ce qui fait qu'il se retrouve avec un reliquat de 6 semaines de prison. Mmh. Donc dans quel pays est-ce qu'on enferme les gens alors que quand ils sont jugés, ils ne méritent pas d'y aller? Et ça n'a rien donné de positif pour lui, clairement. Ça a choqué tout le monde. Et après, c'est quelque chose que lui, il doit porter aussi dans le reste de sa vie. Alors
pour
que,
la suite, oui.
Oui, et vis-à-vis de tout le monde, de son entourage, de ses enfants, enfin voilà, vous pouvez imaginer. Le deuxième témoignage que je voulais apporter aussi, c'est que moi j'ai travaillé un petit peu dans le milieu carcéral et j'ai rencontré des détenus d'un certain âge qui étaient là depuis longtemps, pas parce qu'ils avaient eu une longue peine, mais juste parce que en fait ils étaient perdus dans le monde dehors et que dès qu'ils sortaient en fait ils étaient tellement tellement perdu qu'il récidivait à faire la moindre petite bêtise pour retourner en prison, où là, ils avaient leur sécurité, ils connaissaient, ils avaient leurs repères, ils travaillaient au sein de la prison pour la maintenance. Mmh. Et du coup, finalement, ça crée des gens qui deviennent dépendants du milieu carcéral, tellement il y a aucune réinsertion qui est prévue pour ces gens-là. Si on mettait bien plus d'argent dans la réinsertion, les prisons seraient beaucoup moins pleines. Là, le problème, c'est qu'en plus de créer des réseaux, parce que les gens peuvent faire des rencontres qui les emmènent pas vers le haut, mm-hmm. ça provoque aussi chez les détenus
une forme de dépendance. Oui.
Oui, et puis une dédramatisation, parce que ils y sont allés, ils savent comment c'est, et éventuellement ils connaissent machin, et puis ils savent comment se débrouiller là-bas. Mm-hmm. Donc ça crée aussi cette chose où les gens redoutent moins d'y retourner.
Merci beaucoup Jonathan, il y a beaucoup de choses déjà dans ce que vous nous avez suggéré pour commencer cette émission. Je vous propose qu'on accueille ensemble nos invités pour répondre à toutes ces questions et aux suivantes. Céline Berthetot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrate, vous êtes présidente de l'Association nationale des juges d'application des peines. On aura probablement l'occasion de développer ce que c'est qu'un JAP, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Maître Benoît David, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat pénaliste et vous êtes spécialisé en droit pénitentiaire. Alors, je le disais, effectivement, il y a beaucoup de choses dans le témoignage de Jonathan. Il y a cette question peut-être d'emblée des courtes peines. Peut-être qu'on peut commencer par s'en emparer ainsi. Céline Berthetot, effectivement, quand on parle sens de la peine, la courte peine est peut-être celle qui interroge le plus. Est-ce qu'il y a un sens à aller en prison? Alors là, il parlait de 6 semaines en ce qui concerne son cousin, mais effectivement, des peines inférieures à 6 mois, est-ce que cela permet de s'en emparer correctement?
C'est compliqué de répondre de manière très tranchée à votre interrogation. Alors, je ne vais pas revenir sur le cas du cousin de l'auditeur qui, à mon avis, a dû passer en comparution immédiate, a dû être incarcéré dans l'attente de l'audience et à l'audience a été libéré, ce qui arrive effectivement assez régulièrement. Sur les courtes peines, la réalité, c'est qu'on n'a aucune évaluation de politique publique là-dessus. Voilà. Une peine, elle a un sens si elle est individualisée, si elle est proportionnée à la gravité des faits, et donc elle va protéger la société, éventuellement la victime, et si elle est adaptée à la personnalité de l'auteur. Donc, dans certains cas, effectivement, une courte peine peut être suffisante, dans d'autres, moins. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, et c'est un peu ce que disait votre auditeur, c'est que une courte peine en détention, puisque je pense que c'est un peu le sens de votre question,
tout à fait,
elle peut avoir un sens si, il y a quand même une prise en charge qui est faite. C'est-à-dire que l'outil prison actuellement, la maison d'arrêt, ne rend plus son office, puisque on pourrait espérer sur une courte peine, et c'est un peu en tout cas ce qui est dit par les pouvoirs publics actuellement, on pourrait espérer qu'il y ait au moins de repérer les difficultés matérielles, mais surtout de santé, qu'il y ait une prise en charge qui soit faite. Or, c'est pas ce qui est fait actuellement. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, une peine courte en détention, en maison d'arrêt, la personne, elle rentre et elle sort comme elle est. Voilà.
Enfin,
elle sort comme elle est rentrée.
Sans
aucune prise en charge réelle et sans aucune préparation à la sortie. Et c'est sûr qu'actuellement, ça a assez peu de sens.
J'ai appris, pour tout vous dire, parce que je l'ignorais en préparant cette émission, que certains détenus en courte peine ne sortent même jamais du quartier arrivant, donc qui est donc la zone d'accueil, pour qu'on comprenne bien des détenus quand ils arrivent, et qui en fait ne sortent du quartier arrivant qu'à la fin de leur peine. Je dois dire que c'est une réalité que j'ignorais totalement.
En effet, selon le taux de surpopulation de la maison d'arrêt, ils peuvent rester au quartier arrivant. Alors, au quartier arrivant, ils vont être vus par un conseiller d'insertion et de probation. Ils vont forcément être vus par un médecin psychiatre, par des personnels de l'établissement pénitentiaire. On va leur expliquer un peu comment ça va fonctionner, et notamment pour faire un point sur leur situation. Mais la difficulté sur les peines de 2, 3 jusqu'à 6 mois, c'est qu'ensuite, ils ne seront souvent pas revus. Mmh. Effectivement, s'il n'y a pas de place en ce qu'on appelle en grand quartier, enfin, en tout cas, dans l'établissement, des fois, ils ne vont pas sortir. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès à toutes les activités. À pouvoir sortir la journée, effectivement. Ouais.
Maître Benoît David, vous êtes, je le disais, spécialisé en droit pénitentiaire. Je trouve que dans ce que nous disait notre auditeur, il y a aussi ce témoignage de comment une courte peine peut devenir une très longue peine, parce qu'en fait, elle en appelle une autre et une autre et une autre. C'est une réalité à laquelle vous êtes confronté et que vous pouvez constater.
Oui, c'est une réalité qu'on constate, ce qui avait été qualifié d'ailleurs, un terme qui avait été utilisé par l'OIP, l'Observatoire national de prison, comme les peines nosocomiales. effectivement qu'on attrapait finalement en détention. Et c'est vrai que on est tous témoins de ça quand on intervient dans ce droit-là, de voir des prisonniers qui rallongent leur peine, et de manière parfois infinie. C'est-à-dire que vous avez des gens qui... un client qui est rentré pour 8 ans et qui se retrouve aujourd'hui avec une peine quasiment infinie parce qu'il a régulièrement des incidents. Et les incidents sont aussi la manifestation de quelque chose. Elles sont parfois la manifestation de tensions et difficultés avec des surveillants, une frustration, mais elles sont aussi parfois la manifestation de troubles psychiques. Et en détention, il y a énormément de prisonniers qui souffrent de troubles psychiques. C'est-à-dire que quand l'État a finalement détruit des places de psychiatrie, la seule solution, ça a été d'incarcérer des personnes. Parce qu'il fallait maintenir le fonctionnement du corps social avec dans un certain ordre, en fait, dans un certain ordre. Donc c'est aussi ce drame-là, la prison, c'est bien sûr la promiscuité, les maisons d'arrêt, avec cette difficulté à en sortir. Et puis, c'est vrai, la durée de la peine, on ne sait pas. Alors, il y aurait une étude qui montrerait que des très très courtes peines, de quelques jours, auraient un effet extrêmement important.
Pour le choc carcéral.
Je l'avais lu une fois dans un article, j'ai jamais su retrouver quelle était la source de ça. C'est une sorte de, peut-être de légende carcérale. Mais après, c'est vrai que sur le nombre de mois et dans quel établissement vous êtes, la construction d'une sortie, d'un projet est beaucoup plus compliquée quand vous êtes dans un établissement qui est surchargé, où vous n'avez pas plus de surveillants et de SPIP à disposition, de conseillers d'insertion et de probation qui sont à disposition pour les prisonniers. Et nécessairement, ça crée de la délinquance en sortant, parce que quand vous, finalement, au bout de quelques mois, vous ne pouvez pas maintenir votre travail, votre logement, vous êtes déjà dans une situation souvent un peu précaire, là où vous êtes encore plus précarisé quand vous sortez, et parfois la solution est la commission à nouveau d'infraction. Donc c'est une vraie question, et ce qui interroge bien évidemment le sens de la peine.
Mais sur cette question des courtes peines notamment, c'est vrai qu'on a l'idée communément admise que la prison est ce qu'il y a de pire. Or, en pratique, et notamment les juges d'application des peines le disent parfois, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce diagnostic, Céline Berthetot, mais une peine avec des contraintes en termes de suivi socio-judiciaire, d'obligation de soins, de pointage, de trouver un travail, etc., peut parfois être plus cadrante et plus contraignante pour un jeune délinquant, finalement, et donc plus embêtante pour lui, mais également structurante, qu'une peine de prison qui va le sortir de la société quelques mois, et un peu tout casser s'il restait encore quelque chose à casser, et puis finalement, ne pas le permettre une réinsertion derrière. Est-ce que c'est un diagnostic que vous partagez ou que vous constatez, vous aussi, au quotidien ?
Oui, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours cette histoire d'individualisation de la peine et de l'exécution de la peine, de rappeler que exécuter une peine, c'est aussi, ce n'est pas qu'en détention, c'est aussi dans le cadre d'un aménagement de peine. Actuellement, l'aménagement de peine le plus répandu, c'est ce qu'on appelle le bracelet électronique, la détention à domicile sur surveillance électronique, c'est un peu long. Et vous avez raison de le dire. La semaine dernière, j'ai reçu un jeune majeur qui m'a dit que le bracelet lui avait fait du bien, puisque ça lui avait permis de ne pas sortir le soir et donc de traîner un peu en bas de l'immeuble, et d'avoir un rythme de vie, un peu, de se lever le matin, quoi, en gros, et de faire des démarches. Et c'est vrai qu'il a mis en place des soins, il a pu débuter une formation. Et ça peut tout à fait être bien plus pertinent. Et là, vous avez raison, et ça revient ce que disait l'auditeur et donc notre avocat, c'est que certains sont suradaptés à la détention. Et donc, ils vont rentrer, sortir, une accoutumance qui ne sert à rien. Or, mettre des obligations judiciaires, obliger aux démarches, effectivement, ça peut avoir davantage de soins. Là encore, il faut quand même aussi des moyens pour suivre ces personnes, dehors aussi.
On en vient à la question des moyens. Et je vous propose qu'on accueille Delphine, qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Delphine.
Bonsoir.
On vous écoute.
Et je suis professeure et je suis allée faire passer des oraux de BTS à la maison d'arrêt de Chambéry. Et déjà c'était assez impressionnant, mais ce qui m'a paru, on est deux jurys hein, toujours pour faire passer des oraux, deux personnes, ce qui m'a paru très dommageable, c'est que la dame nous a dit qu'ils s'occupent donc des classes, nous a dit qu'il y avait une telle surpopulation, qu'il y avait une file d'attente immense et qu'elle ne pouvait évidemment pas répondre à toutes les demandes de formation qui étaient formulées par les détenus. Et pour la réinsertion, je trouve ça très dommageable. Et voilà.
Merci beaucoup Delphine pour votre témoignage. Maître Benoît David, ça permet de parler effectivement à la fois de la formation, également de l'accès au travail. On peut faire le parallèle. Beaucoup plus de demandes que de places. Ça, c'est un problème, oui, que vous constatez, vous, pour les détenus que vous êtes amenés à suivre.
Bien sûr, c'est une réalité. C'est-à-dire que, mais ça va dépendre aussi des types d'établissements. Mm-hmm. Dans les établissements pour peine, je crois, à peu près...
Alors, peut-être qu'on peut éviter de jargonner. Non, mais je vais me l'appliquer à moi-même.
Je vais faire, pardon. On va dire qu'il y a deux types d'établissements. Enfin, il y a deux types d'établissements. Vous avez les maisons d'arrêt où les personnes attendent d'être jugées ou exécutent de courtes peines inférieures ou égales à 2 ans, enfin maximum jusqu'à 2 ans, puis les établissements pour peine, où là vous avez deux types d'établissements, centre de détention, axé sur la réinsertion, nous dit le code, et la maison centrale, axé sur la sécurité. Dans les établissements donc dits pour peine, où les personnes exécutent leur peine, je crois que le taux de travail est à peu près d'un tiers, enfin un peu moins d'un tiers. Dans les maisons d'arrêt, c'est plutôt, j'étais à la santé il y a 2 jours, dans le cadre d'une visite du bâtonnier qui peut contrôler les privations de liberté, et le chef d'établissement me dit on est plutôt aux alentours de 15-18% à la prison de la maison d'arrêt de Paris La Santé. Et c'est bien sûr dommageable, parce que qui dit travail dit sortir un peu d'une certaine oisiveté qui peut être possible, dit une certaine responsabilité, dit
vis-à-vis des familles. J'entendais le témoignage d'un détenu, pardon, c'est pour compléter, oui, ce que vous dites, qui disait ça m'évite de faire payer à ma femme à l'extérieur mes conneries, c'était le terme qu'il utilisait. Il y a aussi ça, voilà, une forme de responsabilisation.
Bien sûr, il y a de ça, et il ne faut pas oublier que quand il y a une personne de la famille qui tombe, enfin qui arrive en prison, c'est parfois un revenu en moins. Dans une famille. Donc, vous avez cette charge en plus qui vient, et qui est tout est cher. En plus, en prison, vous achetez par les cantines, c'est plus cher que dans la vie courante, on va dire, la vie hors les murs. Et le travail, ça vient aussi permettre ensuite des remises de peine ou un éventuel aménagement de peine. Ça vient concrétiser une certaine responsabilité et donner un sens.
Et donc, on n'oublie pas ce que nous disait Delphine, pardon, sur la formation, voilà, également.
Et les formations, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut se dire aussi qu'il y a des formations qui sont indispensables aux prisonniers. Savoir lire, savoir écrire, on va dire l'apprentissage de base. Mais il y a aussi ceux qui pourraient pousser un peu plus loin. Où là, c'est la grande difficulté. Ce que décrit cette auditrice, c'est malheureusement extrêmement répandu. Puis d'autant plus quand vous venez ajouter où vous avez des personnes qui sont transférées, qui changent d'établissement. Et lorsqu'elles doivent passer un examen, ben non, en fait ça va pas se passer parce qu'elles vont être transférées. Donc l'examen devra être reporté, avec la difficulté aussi de pouvoir trouver des professeurs, etc. etc. Donc il y a tout ça qui est mis en place. On va exiger finalement, parfois, où l'opinion publique, même si je sais pas qui elle est, mais parfois qui vient dire, mais faudrait qu'ils travaillent, faudrait qu'ils soient formés. La réalité, c'est que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des contingences aussi sécuritaires, et il y a aussi des difficultés à faire rentrer du travail et des formations.
Céline Berthetto, c'est vrai qu'il y a une injonction sociale à se dire qu'on aimerait que le détenu s'empare de sa peine et rompe cet adage qui veut dire qu'il sort pire de la détention qu'il n'est arrivé en entrant. Le travail, la formation, on en parle, ça fait partie de ce qui pourrait permettre justement de mettre du sens dans la peine de prison. Malheureusement, ça reste une réalité trop peu courante.
Oui, alors j'ajouterais aussi les soins. Puisqu'on a quand même énormément de personnes incarcérées avec des problèmes d'addiction, des troubles psychiques, voire les deux. Et très souvent, il faut commencer par là déjà pour pouvoir les remettre à l'emploi ou à une formation. Hein. On est quand même des fois sur des personnes qui ont vraiment des grosses difficultés psychiques. Hein. On connaît les difficultés de la psychiatrie. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes incarcérées qui auraient plutôt leur place dans un hôpital. Je dis ça parce que tout le monde ne peut pas travailler, ne peut pas avoir accès aux formations. Sûr. Une fois que j'ai dit ça, juste pour dire, c'est que les moyens mis en détention sont calculés en fonction d'un taux de remplissage de 100%. Donc, y a un nombre de surveillants, de professeurs, de soignants, etc. Sachant que des fois, il en manque, mais en fonction du 100%. Quand on a 200, vous imaginez bien que...
Ce qui est le cas de 22 établissements aujourd'hui en France, hein. Le 200% de
surpopulation. Oui, voilà, et puis de toute façon, on est sur un taux à peu près à 170, je crois 180 en moyenne, donc voilà. On est, et donc, et même avant même, je dirais, la formation et le travail, il y a même tout ce travail qui est vraiment bien fait de remise à niveau. Juste de lecture, d'écriture, de savoir de base. On a des personnes qui, des fois, sont sorties tôt du système scolaire, et c'est vrai que c'est vraiment fondamental. Et malheureusement, on parlait des courtes peines, il y en a beaucoup. En réalité, ils passent leur temps de détention à être sur liste d'attente. Voilà. Et ils sortent avant même d'avoir été...
Mais comment fait-on alors au quotidien dans votre métier qui est juge d'application des peines, donc c'est-à-dire que vous vous emparez du suivi d'un détenu une fois la peine prononcée et possiblement ensuite de sa sortie. Comment on fait pour évaluer justement comment ce détenu s'empare de sa peine dès lors qu'il n'a pas toujours les moyens de pouvoir le faire? J'imagine que c'est la question que vous posez 30 fois par jour, mais comment vous arrivez à y répondre?
Alors, je ne sais pas si on y répond. Pour être concrète, sur des courtes peines, en général, on va étudier les éventuelles réductions de peine auxquelles ils ont droit. Et donc, une des questions qui se pose, c'est... Donc, le texte, il dit que s'ils font des efforts particuliers d'insertion sociale, notamment, effectivement, le travail, les soins, payer les dommages intérêts, parce que travailler, c'est aussi indemniser les victimes.
Bien sûr, ce qui fait partie des critères.
Surtout,
aussi.
D'ailleurs. C'est quand même un point sur lequel on insiste beaucoup, nous. Voilà, donc toute la question, quand on arrive, eh bien, au bout de 2-3 mois de détention, à statuer sur la réduction de peine d'une personne incarcérée, qu'il est simplement sur liste d'attente, toute la question est de dire, comme il a fait la démarche, est-ce qu'on en tient quand même compte? Ou, comme c'est pas concret, on n'en tient pas compte. Tout en ayant en tête que moins on accorde réduction de peine, plus on augmente la surpopulation carcérale, puisqu'aujourd'hui, la surpopulation carcérale, elle est due par l'allongement des peines. Il n'y a pas plus de personnes en détention, mais ils sont plus longtemps en détention. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez contradictoire, voilà, où on va avoir tendance à pousser l'octroi des réductions de peine. Je pense, après, chaque juge d'application des peines fait comme il veut. Enfin, en tout cas, c'est quand même un peu la tendance. Et c'est ce que, d'ailleurs, a pu demander le garde des Sceaux, hein. Récemment. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de visio, et c'est ce qui est demandé au juge d'application des peines.
Ce qui est un peu une régulation carcérale qui ne dit pas son
fait,
nom, quand même.
Tout à fait, et qui, du coup, porte uniquement sur le juge d'application des peines, alors qu'on estime, en tout cas nous, à l'Association nationale des juges d'application des peines, que c'est une responsabilité des pouvoirs publics.
Comme ça a été le cas, pardon, au moment notamment de la crise sanitaire, où là, il y a eu une politique publique décidée.
Mais il y a eu une ordonnance, il y a eu des textes. Voilà. Nous, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est qu'il y ait des textes qui, effectivement, que le législateur vote un mécanisme de régulation carcérale. Donc là, aujourd'hui, on nous demande un peu d'une forme d'automaticité de réduction de peine et de pousser au maximum. Mais il y a pas mal de collègues et il y a une discussion qui est faite. C'est-à-dire que nous, notre rôle, normalement, c'est d'individualiser. Voilà. Et donc, c'est complètement contradictoire avec cette crainte de dire que si celui-là, il sort plus tôt et qu'il y a une difficulté, ne va-t-on pas nous le reprocher? Et donc, c'est compliqué. Je pense qu'on est beaucoup à quand même octroyer, à partir du moment où le détenu a fait une démarche, à en tenir compte. Mais les choses ne sont pas simples.
Ce qui veut dire que la surpopulation carcérale, c'est le point numéro un, l'urgence absolue pour pouvoir redonner un peu de sens à ces peines, puisque c'est quand même de ça qu'on parle ce soir, selon vous, Benoît David?
Alors, ça dépend
dans quel établissement. Est-ce que c'est multicausal?
Malheureusement, c'est multicausal, et puis ça dépend de quel établissement on est. La surpopulation carcérale, elle est dans les maisons d'arrêt.
Mais qui concerne la majorité des détenus aujourd'hui.
Mais qui concerne la majorité des détenus, mais la question aussi qui se pose dans le sens de la peine, c'est aussi sur ces très longues peines. Vous avez parlé de Georges Abdallah à 40 ans, mais vous pouvez prendre Casanova Agamemnon, 50 ans d'incarcération. 50 ans. Et alors que l'on sait que les études montrent qu'au-delà de 15 ans, finalement, la peine n'a plus beaucoup de sens. C'est-à-dire que la possibilité de réinsertion du prisonnier diminue.
Ça me nuise,
au-delà de 15 ans. Donc vous dites, c'est des peines complètement démesurées.
Parce que ce sont des personnes qui ressortent complètement décalées avec leur temps, qui n'ont plus aucun repère socio-classique, etc. C'est quand même ça que ça dit une chaleur.
Je crois qu'on appelle ça l'effet visiteur. Vous voyez, le film Visiteur, mais voilà, se retrouver dans un monde qui n'est plus le sien, pas celui qu'on a connu. Donc il y a bien sûr cette surpopulation dans ces établissements, dans les maisons d'arrêt, qui est problématique en matière de sens de la peine, parce que il n'y a pas forcément de réflexion, enfin, il n'y a pas de projet, c'est plus compliqué, du moins. Tout est plus compliqué, en fait, en maison d'arrêt. Les relations avec les proches sont aussi plus compliquées, parce que les parloirs, ça va être plus compliqué. En fait, quand il y a une surpopulation carcérale, ça a un effet, en fait, sur ça a une conséquence de dysfonctionnement général. Les difficultés pour les parloirs, les tensions avec les surveillants, qui doivent gérer beaucoup plus de personnes que d'habitude. Les incidents qui vont se multiplier, etc., etc. Et là, quand même, où il faut toujours, à mon avis, il faut quand même constater une chose qui est extrêmement positive. Vous avez un taux et une occupation, 84 000 prisonniers, pour faire simple. Et vous avez quand même assez peu d'incidents actuellement en détention. Ce qui quand même vient dire que les prisonniers, ils sont quand même assez... Ils prennent sur eux, en fait. C'est-à-dire qu'on vient toujours nous sortir le fait divers, celui qui sort, etc. Le fait divers, il existera toujours. Celui de l'angle mort, ça existe. Il n'y a que dans les sociétés totalitaires où il n'y a pas d'angle mort. Hein. Donc, il y aura toujours, bien sûr, cet angle mort. Mais ce que l'on constate quand même, c'est qu'il n'y a pas plus, y a pas tellement d'incidents, il n'y a pas une explosion de ça. Et quand on a pu vider, entre guillemets, avec l'effet Covid, il n'y a pas eu une délinquance qui a augmenté. Et aujourd'hui, on vient vous dire, il faut incarcérer à tout craint, parce que même les petits... Voilà, c'est le discours ambiant qui est un discours déconnecté de la réalité de la société. C'est-à-dire, je ne veux pas forcément la société. Et la réalité, ensuite. Donc, oui, compliqué de mettre du sens dans tout ça.
France Inter. Le téléphone sonne.
Et au téléphone sonne ce soir, on parle sens de la peine et prison, qu'elle soit surpeuplée ou non d'ailleurs. Nous sommes avec Céline Bertetto, qui est magistrate, juge d'application des peines, avec maître Benoît David, avocat au barreau de Paris. Et nous accueillons Amar, qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonsoir Amar.
Bonsoir madame.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Ben voilà, moi j'estime qu'il ne faut pas désespérer d'un être humain. On peut faire une longue peine de prison. Même si je trouve qu'en France, les peines sont vraiment trop longues comparées aux pays voisins. Mais il faut jamais désespérer d'un être humain. On peut toujours se réinsérer. Moi, j'ai fait, sur 27 ans de condamnation, j'ai fait 18 ans, plein, d'un trait. Et je suis sorti en 2001 et j'ai jamais recommencé à faire des bêtises. Donc, vous voyez... donc il ne faut pas désespérer de quelqu'un et puis voilà, il faut donner une deuxième chance à quelqu'un. On peut faire quelque chose de mal et puis pouvoir se réinsérer, voilà.
Et comment vous l'avez vécu, vous, votre peine? 18 ans, c'est une très longue peine. Est-ce que vous avez réussi à y mettre du sens, justement, à la rendre utile, ou est-ce que ça a été véritablement un temps d'attente? Comment vous avez réussi à vous en emparer?
Ben, c'est un peu des deux. Si vous voulez, je me suis adonné à la lecture. Chaque fois que j'ai pu faire une activité, je l'ai faite. J'ai fait une formation de cuisinier, donc ça m'a servi en sortant de prison. Et puis bon, ben oui, on est dans l'attente. On espère que voilà, on va pas tomber malade, parce qu'en prison, on tombe souvent malade. Moi, j'ai vu pas mal de détenus, devenir cardiaque, avec des maladies liées à la détention. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de suicides en prison aussi, ça, il faut le dire aussi. On meurt 5 fois plus de crises cardiaques en prison qu'à l'extérieur. Donc, chaque jour qui passe, c'est un jour de gagner vers la liberté, quoi. Voilà.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Amar. Céline Bertetto, effectivement, on peut... Rappelons-le, la récidive, même si on a parlé qu'il y a des taux importants, on peut aussi, bien sûr, être amendé après une peine de prison et avoir une autre vie. C'est d'ailleurs l'objectif pour tout un chacun et pour la société en général.
Oui, je ne sais pas si votre auditeur est toujours là. J'aurais voulu lui demander s'il était sorti en aménagement de peine. Voilà.
Non, je crois qu'il n'est plus avec nous, mais il pourra nous rappeler si jamais.
Bon. Oui. Du coup, je suis désolée. Sur la récidive, effectivement. Je voulais juste revenir justement sur ce taux de récidive où on parle de 60% de taux de récidive pour les personnes sortant de détention. Le taux global de récidive est de 40%. Peut-être dire un mot quand même il y a 80 000 personnes donc à peu près incarcérées, et on a 180 000 personnes qui sont suivies dehors, en milieu ouvert, c'est-à-dire dans le cadre de sursis probatoire, de suivi judiciaire et d'aménagement de peine. Et que ça a aussi du sens, et ça prévient aussi la récidive, et même presque davantage, je dirais, selon les mesures qui sont prononcées. Et si je posais cette question, c'est qu'effectivement, là, sur la question des longues peines... Il y a l'idée de préparer la sortie, mais on est sur quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que c'est des faits extrêmement graves, et au départ, on est quand même dans une logique uniquement répressive, qui est d'écarter en fait la personne de la société en disant, ben voilà, il y a une telle gravité qu'en gros...
L'effet punitif,
l'effet uniquement punitif. Mais pour autant, voilà, à un moment donné, cette personne... va ressortir, il y a quand même assez peu de vraie perpétuité. Et donc, du coup, toute l'idée, c'est effectivement de sortir et de préparer la sortie. Et très souvent, sur ces longues peines, on constate effectivement un taux de récidive assez faible, en réalité.
Benoît David, est-ce que vous diriez, parce que c'est un peu le constat qui est en train de se dessiner là, que la France n'a pas vraiment à être très fière non plus de son système carcéral, ou en tout cas de la manière dont où ça se passe aujourd'hui si on regarde un peu nos voisins, est-ce qu'on pourrait, en caricaturant un peu, dire que si c'est très compliqué sur les courtes peines, les maisons d'arrêt extrêmement surpeuplées, finalement, et ça va dans votre sens Céline Berthéteau, sur la longue peine, on arrive à faire quelque chose dont on n'aurait pas à rougir, est-ce qu'on pourrait le résumer ainsi? La question dans laquelle vous n'avez pas 4 heures, mais on vous écoute.
Non, d'avoir comme solution la peine de prison et d'avoir autant de personnes incarcérées aujourd'hui, c'est plutôt le symptôme d'un pays qui ne va pas très bien. C'est-à-dire que la délinquance n'est pas non plus explosée, on ne se fait pas égorger à tous les coins de rue ou voler à tous les coins de rue. Enfin, y a une volonté en fait répressive et d'incarcération parce qu'il y a aussi des infractions qui maintenant permettent cette incarcération alors qu'avant ça ne permettait pas forcément, qui est problématique à mon sens et qui pose une question sur notre société. Après, sur le deuxième volet qui est sur les longues peines ou dès qu'il y a un peu de temps, en fait, c'est vrai, je veux dire, c'est sur la récidive, quand on nous parle de récidive, la récidive des longues peines, non, elle n'est pas là, la récidive des longues peines. Et nécessairement, il y a aussi eu cet accompagnement qui a pu peut-être se faire. On n'a peut-être pas à rougir, mais est-ce que c'est non plus forcément complètement satisfaisant quand on voit, et c'est vrai, on parle des suicides en détention, comme disait Amar, mais il y a aussi le suicide après la prison. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel qui n'est pas évalué. Et moi j'ai des témoignages, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais j'entends, voilà, tel prisonnier que j'ai pu suivre, il est décédé, etc. Ou les maladies qui ne sont pas soignées, on décède quelques temps après la prison. Il y a quand même aussi cette problématique et les oublier. Et vous voyez, même, je termine, je n'ai pas 4 heures, mais il y a quelque chose que je trouve très, très, très symbolique. La prison, elle ne doit pas être oubliée. C'est-à-dire que la prison de centre-ville, c'est très bien. La prison dans les murs d'une cité, qui soit vue par tout le monde, la Paris La Santé, Melun, c'est vieilles prisons. Et aujourd'hui, on construit des prisons, on dit champs de patates. C'est-à-dire qu'on les met complètement à l'extérieur parce qu'on a un grand terrain qui est acheté et ça permet de construire une prison en 3 mois. J'exagère un peu. Mais et ça, on oublie en fait. Alors que le citoyen ne doit pas oublier qu'il y a la prison.
Au même titre
palais de justice, que l'école, etc. Et nécessairement, si vous traitez mal les gens, si vous les traitez avec indignité, c'est-à-dire si vous considérez qu'ils ne sont finalement pas dignes d'être dans la société de par les conditions qu'ils subissent, ben vous en faites pas forcément, vous en faites a priori pas des gens qui vont sortir bien et qui vont avoir eux-mêmes aussi une image d'eux-mêmes qui est nécessaire pour pouvoir se reconstruire, qui sera favorable, qui sera positive. Donc c'est aussi un ce problème-là.
Bonsoir Cécile, vous nous appelez de Limoges.
Bonsoir.
On vous écoute.
J'ai appelé moi pour témoigner juste après une intervention du JAP, du juge d'application des peines. J'ai perdu son nom.
Céline Berthéteau.
Ok. Qui parlait des obligations de soins, si je ne me trompe pas, pour les gens qui étaient incarcérés à l'extérieur avec un bracelet électronique. Et moi, dans ma pratique infirmière actuellement, je travaille donc en addictologie. Et on a des patients qu'on doit suivre et qui sont en obligation de soins pour une problématique addicto en lien avec leur peine. Soit parce qu'ils ont créé un accident, des violences intrafamiliales ou extérieures, enfin hétéro ou auto-agressives. Et c'est des patients qu'on a quand même du mal à pouvoir atteindre et toucher parce qu'en fait, eux, ils voient que l'attestation qu'on va leur donner pour donner au SPIP. Et ça crée...
Au service pénitentiaire d'insertion et de probation, je traduis le SPIP. Mais on continue à vous écouter.
Et c'est la difficulté qu'on rencontre. Sur ces problématiques-là addictives, pour des gens qui sont incarcérés, il faut une motivation vraiment intrinsèque des gens pour se faire soigner. Et en fait, la motivation, elle est extrinsèque parce qu'elle est imposée par la société. Donc, c'est des gens qui sont en récidive souvent, en tout cas en récidive, et pour qui on a du mal à travailler. Et je voulais rebondir sur une deuxième chose aussi, parce que vous parliez des suicides carcéraux. Je suis intervenue aussi en tant que formateur au repérage de la crise suicidaire. Nous, on a un centre de détention à côté de Limoges, à Usherche, qui est un gros centre de détention avec des peines un petit peu plus longues. Et il y a eu un programme national de lancer. Donc, on a formé des co-détenus de soutien au repérage de la crise suicidaire pour qu'ils puissent s'aider entre eux dans leur bâtiment, dans leur aile. Il y avait un référent.
C'est-à-dire un détenu qui, à qui on demande finalement
de... Un détenu au repérage qui pouvait lui, qui était étiqueté par ses co-détenus comme quoi il pouvait aller se confier à lui, il n'y avait pas l'étiquette médicale, il n'y avait pas l'étiquette de conséquences quelconque. Et si le détenu était inquiet, il contactait le service de soins du centre. Et tout ça, en fait, ça a été avorté. Après, ils ont... l'État, si on peut dire, a passé le relais à une association où les formateurs étaient plus des soignants, donc ça coûtait moins cher. Et puis petit à petit, ça s'est épuisé. Mm-hmm. Et effectivement, on voit en milieu carcéral, c'est un taux de suicide important, un taux de suicide important à la sortie, comme le disait monsieur aussi, en préventive aussi. Et voilà, j'ai pas la solution en fait, c'est qu'un constat.
De terrain, oui, merci de le partager avec nous.
Mais épuisant quelque part, parce qu'on a envie d'aider les gens, mais du coup les gens viennent pas automatiquement vers nous pour réellement des soins qui sont pour lesquels ils sont demandeurs, mais pour lesquels ils ont besoin quand même d'être soignés. Mm-hmm. Et après, il faut pas oublier la comorbidité avec les pathologies psychiatriques aussi. Il y a beaucoup de détenus qui ont une pathologie psychiatrique en prison et qui ne sont pas pris en charge. Voilà. Et en fait, il y a un problème de moyens, que ce soit pour qu'on intervienne en santé dans les prisons, qu'on intervienne dans la formation en prison, dans la réinsertion. Mm-hmm. Moi, mes collègues du SPIP me répondent, je peux pas le voir avant 3 mois, ou je peux pas lui redonner, ou le revoir avant 3 mois, parce que j'ai pas les moyens. Mm-hmm. Là, j'ai un patient, il peut pas être vu maintenant avant septembre, parce que c'est des congés, c'est. Mais ce que je comprends, nous, c'est pareil. On fait attendre des patients, on les voit que dans un mois et demi, à domicile, parce que je suis pas remplacée pendant mes congés.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Céline Bertetto, je ne vais pas me tromper de prénom. Il y a beaucoup de choses également dans ce témoignage, mais peut-être qu'une des choses, c'est qu'effectivement, il faut aussi que la personne s'empare, que ça soit de sa peine, que ça soit de son suivi de soins ou socio-judiciaire. Enfin voilà, à un moment donné, effectivement, il faut revenir à l'individu en tant que tel, et ça, c'est toujours un défi.
Alors ça, c'est un débat assez ancien entre effectivement le médical et, je dirais, le judiciaire. Moi, je suis pas soignante, donc évidemment, j'ai un prisme qui est différent de Cécile. On entend souvent ça, les soignants, de dire l'obligation de soins, quelque part, vous nous l'imposez. Et il y a certains soignants, d'ailleurs, qui refusent de prendre des obligations de soins. Nous, on a tendance à dire qu'en fait, l'adhésion, elle se crée et elle se travaille. C'est aussi le travail des conseillers pénitentiaires d'insertion de probation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une grosse addiction ou des troubles psy, il y a parfois l'obligation de soins, j'ai envie de dire, paraît tout à fait pertinente. Et je crois aussi qu'on est face souvent à des centres d'addictologie qui sont débordés, surchargés.
Toujours ce manque de moyens.
Moi, je vais parler de mon ressort, où on a pu avoir des 6-8 mois, parfois un peu plus, d'attente. Et donc, recevoir quelqu'un qui potentiellement n'est pas toujours adhérent tout de suite, je comprends que ça, peut-être ça enthousiasme moyennement. Mais donc, je ne suis pas complètement d'accord avec votre auditrice. Voilà. Je pense quand même que ces obligations ont quand même un sens.
Alors, on approche de la fin de l'émission, mais j'aimerais qu'on accueille Laure qui nous appelle de Rennes. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
On vous écoute assez brièvement si possible pour que nos invités puissent vous répondre. On vous écoute.
Oui, alors du coup, moi je suis directrice pénitentiaire d'insertion et de probation et je suis secrétaire nationale au syndicat national des directeurs pénitentiaires et je me permettais d'intervenir concernant votre débat qui est assez intéressant au regard notamment du fait qu'il n'y a pas de recherche en France qui permettent de recherche probante, qui permettent de savoir si tel profil serait mieux en prison en termes de réinsertion, je veux dire, ou plutôt devrait-il bénéficier d'un TIG, d'un sursis probatoire. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que nous, on regrette au niveau du syndicat, le fait que il n'y a pas de chaire de criminologie en France, du coup on n'a pas de recherche spécifique sur sur l'incarcération, sur la réinsertion, ce qui existe par exemple au Canada, ce qui existe en Belgique et également.
Et merci beaucoup pour votre question. Je vous interromps pour qu'on ait le temps de vous répondre. Céline Bertetto, je vous voyais acquiescer.
Ah oui, complètement. Ça fait partie de nos demandes récurrentes au niveau de l'association, qui est une évaluation de la probation des peines, des aménagements de peine, du profil, du vrai taux de récidive, de combien de personnes récidivent, mais combien de personnes trouvent un emploi, se soignent. Enfin, on n'a vraiment aucune... il n'y a aucune évaluation scientifique, documentée, universitaire sur plusieurs années qui existe en France.
Qui vous aiderait
c'est une vraie
juste
difficulté.
Dans voilà. votre métier au quotidien.
Il faut savoir que la Cour des comptes a pu essayer de faire une analyse. On a des chercheurs en France aussi qui tentent, mais ça reste toujours... c'est pas assez développé, pas sur un temps assez long. Voilà.
Maître Benoît David, ça dit ce que vous nous disiez tout à l'heure sur une forme d'invisibilisation des prisons. Finalement, on s'empare peut-être pas non plus assez de la problématique carcérale d'un point de vue de la recherche.
Effectivement, aussi, il y a peu ou pas de recherche là-dessus. Il y a quelques, effectivement, c'est trop dispersé pour arriver à une vraie analyse et une vraie politique. Et encore une fois, c'est aujourd'hui, c'est du tout sécuritaire. C'est effectivement, vous avez commencé ce propos par ça en parlant de Vandaleuviel, et c'est une réalité. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est absolument plus, que malheureusement, le sécuritaire vient prendre la place sur ce qui doit être la réinsertion, le meilleur moyen de lutter contre la récidive.
Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie grandement, maître Benoît David, avocat au barreau de Paris, Céline Berthetot, juge d'application des peines. Demain, on parlera tatouage et ce qu'ils disent de nous, et dans un instant, les infos de 20h. Mais avant tout cela, la question des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Cléo, j'ai 9 ans et je voudrais savoir qui a inventé l'escalade. Merci de me répondre, au revoir.
Et la réponse, ce sera juste après le flash.